Help! Merci, beauté.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Help pour qui voter. Vous le savez, chaque semaine, un thème spécifique est approfondi avec les présidents de partis francophones.
Cette semaine, on va parler santé. Depuis le Covid, le secteur est en grande souffrance. Nous avons demandé à chacun comment assurer la pérennité des soins de santé en Belgique.
On a aussi parlé prévention et réseau d'hôpitaux dans cet épisode. Vous l'entendrez, les réseaux d'hôpitaux sont issus d'une réforme lancée par Maggie de Blocq. Et globalement, cela revient à redécouper le paysage hospitalier pour rationaliser les moyens utilisés par les hôpitaux.
On commence tout de suite avec Paul Magnette, président du PS.
Il faut continuer à investir dans les soins de santé. Si on a créé à l'initiative des socialistes une norme de croissance, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on sait que 70% des soins de santé sont consommés au-delà du troisième âge, au-delà de 65 ans. Or, comme l'espérance de vie augmente, il y aura de plus en plus de personnes plus âgées, et donc de plus en plus de personnes qui, pour continuer à vivre en bonne santé, auront besoin de prestations de soins de santé. C'est pour ça qu'il faut tous les ans continuer d'investir 2-3% en plus dans les soins de santé. Ici, on a fixé une norme de croissance à 2,5. On a beaucoup réinvesti sous ce gouvernement, près de 8 milliards d'investissements, et on doit pouvoir continuer à le faire à l'avenir. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est l'accessibilité à la santé. Heureusement, le nombre de personnes qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas des moyens financiers a beaucoup diminué ces dernières années, parce qu'on a beaucoup investi dans l'accessibilité. On a rendu toute une série de soins, toute une série de l'accès aux médecins généralistes, les soins dentaires, les lunettes, les appareils auditifs, etc., beaucoup moins chers. Donc on a moins de gens qui doivent renoncer à se soigner. Ma grande préoccupation, c'est de voir qu'on va un peu beaucoup vers une forme de santé à deux vitesses. Je vois des patients qui vont à l'hôpital et qui disent « j'ai besoin d'un rendez-vous chez un pneumologue, par exemple, parce que je souffre, j'ai des problèmes respiratoires. » Et on lui dit « ah ben écoutez, il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois. Mais par contre, si vous voulez aller en clinique privée, là vous aurez un rendez-vous dans 1 mois ou dans 3 semaines. » Mais évidemment, le tarif est beaucoup plus élevé. Et ben ça, c'est évidemment pas du tout acceptable. On ne peut pas aller vers cette espèce de privatisation rampante de la santé, et on ne peut certainement pas aller vers une santé à deux vitesses. Les soins de santé de qualité, en ce compris chez les spécialistes pour ceux qui en ont besoin, qui en ont vraiment besoin, doivent être accessibles à tous. Il faut faire en sorte que de conventionner un maximum et de limiter tous les suppléments, de limiter toutes les prestations privées qui sont demandées par des spécialistes. Mais ce n'est qu'un aspect, hein. Il ne faut pas non plus se braquer uniquement sur l'aspect hospitalier et sur les spécialistes. La meilleure des médecines, ça reste la médecine préventive. Mon père était médecin généraliste et il disait « la vraie médecine, c'est d'éviter que les gens tombent malades plutôt que de les soigner ». Et donc c'est en investissant massivement dans la première ligne, en renforçant le nombre de médecins généralistes, ce qu'on a fait aussi en octroyant davantage de numéros INAMI, c'est comme ça qu'on va aussi permettre de renforcer la prévention et d'éviter qu'on tombe malade. Alors on a beaucoup réinvesti dans les soins de santé pour mieux valoriser le travail du personnel soignant en général, pour permettre d'engager davantage de travailleurs dans le secteur des soins. La grande difficulté, c'est qu'il y a une vraie pénurie, qui est une pénurie mondiale. Dans tous les pays du monde, il y a une pénurie de soignants, il y a une forme de crise des vocations, et donc ça appelle une réflexion profonde sur les causes de cette crise de vocation. J'ai discuté souvent avec des infirmiers, des infirmières, des kinés, des psychologues, enfin différentes professions médicales et paramédicales, qui disaient finalement, c'est pas que le salaire. Bien sûr, il faut un salaire tout à fait correct, mais globalement, en Belgique, les salaires dans le secteur des soins sont assez corrects. Par contre, il y avait beaucoup de demandes d'avoir une vraie qualité du travail. Beaucoup de travailleurs du secteur de soins de santé se sentent sous une pression terrible. On leur dit « tu as 3 minutes pour faire telle prestation, tu as 5 minutes pour faire ceci ». Et beaucoup nous disent « je ne sais plus bien faire mon travail ». J'ai choisi ces métiers parce que c'est un métier que j'aime, parce que j'aime soigner les gens. Mais si je suis mis sous une logique de profit et de rentabilité, alors je ne sais plus faire correctement mon travail. Ça, c'est une première demande, de leur permettre d'avoir le temps de bien faire leur travail. Puis il y a une deuxième demande, c'est d'avoir des aménagements de carrière et des aménagements de fin de carrière en particulier. Avec Laurette Onkelinx, ministre socialiste de la Santé, on avait créé un système qui existe toujours, qui permet aux travailleurs des soins de santé, de toute discipline, d'avoir 1 jour de congé supplémentaire par mois à 45 ans, un deuxième à 50 ans, un troisième à 55, un quatrième à 60 ans. Ce qui veut dire que progressivement, vous allez vers un 4/5e. Progressivement, vous avez du temps pour vous et vous pouvez donc réduire votre temps de travail, avoir davantage de temps pour vous reposer, pour vous occuper de vous-même, ce qui permet de continuer à travailler et d'éviter de tomber malade à son tour.
Au sujet des réseaux,
le fait de rapprocher les hôpitaux, mais pas seulement les hôpitaux, je pense qu'il faut vraiment une approche globale de se dire on doit créer des vrais bassins de soins. On doit faire en sorte que, à l'échelle d'une population donnée, il y a une dizaine de bassins de soins en Wallonie et un ou deux à l'échelle de Bruxelles, de pouvoir se dire qu'on doit avoir une offre complète. Et donc, plutôt que de laisser jouer une pure concurrence qui fait qu'on va avoir deux fois la même spécialisation sur un tout petit territoire, mais par contre pas une autre dont on a absolument besoin, qui est une coordination à l'échelle du bassin, je pense que c'est vraiment important. Ça passe pas forcément par des fusions. À certains endroits, il y a des fusions. À d'autres endroits, il y a des collaborations. À certains endroits, il y a un mélange des deux. Mais faire en sorte qu'à l'échelle d'un bassin, de 500 000 habitants par exemple, eh bien, tout patient potentiel puisse être assuré qu'il y ait suffisamment de chambres en maternité, qu'il y ait suffisamment d'accès à un IRM si on doit faire ce type d'examen, qu'il y ait suffisamment de chambres en oncologie pour les personnes qui souffrent de cancer. Et donc cette coordination qui tient compte des besoins réels d'un territoire, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important.
François de Smet, défi.
Alors, en refédéralisant la matière d'abord, ce qui permettra de faire des économies... des économies d'échelle à mon avis assez importantes, en revalorisant aussi la filière, la qualification. C'est un peu le même problème que les enseignants. Il y a beaucoup de gens qui partent dans les premières années. Ça veut dire qu'il faut mieux payer les gens, les infirmiers et les infirmières, dans les toutes premières années pour les inciter à rester et faire en sorte qu'elles soient plus nombreuses, parce que c'est pas juste le manque d'argent, c'est le manque de bras dont les infirmiers et les infirmières se plaignent en premier lieu. Et puis accepter que les dépenses de santé vont nous coûter de plus en plus cher à cause du vieillissement de la population, et donc accepter d'adapter cela en termes de cotisation sociale. Alors attention, soyons de bon compte, il y a quand même des progrès qui ont été faits, notamment en termes d'augmentation de l'argent investi, le fonds Blouse Blanche, mais le secteur nous le dit, ce n'est pas encore suffisant, singulièrement. Pour les aides-soignants, les infirmiers et les infirmières, il y a sans doute aussi des simplifications administratives à faire pour qu'il soit plus facile d'être aide-soignant. Je dis ça pour toute l'aide à domicile, par exemple. On va devenir de plus en plus vieux rapidement dans ce pays. C'est que si on veut imaginer un modèle où il y a un peu où les gens peuvent continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible et donc avoir une assistance à domicile. Bah, ce serait peut-être une bonne idée d'assouplir les conditions d'accès à la profession et de faire en sorte que plus de gens puissent le faire. Je connais des tas d'exemples où des personnes, notamment de l'étranger, sont payées en noir parce que trouver une aide-soignante ou un aide-soignant classique, normal, est en fait devenu impossible.
Qu'en est-il des réseaux pour vous ?
Alors, ça date de Maggie Debloc, hein, l'histoire des silos et des réseaux d'hôpitaux. Qu'il faille une certaine maîtrise des coûts, qu'il faille mettre de l'ordre, notamment dans les honoraires supplémentaires. Il y a quand même des choses hallucinantes qui peuvent arriver sur une facture médicale et on ne comprend pas bien. Moi, je trouve ça quand même très obscur. Donc, si je veux être soigné par un médecin en particulier relativement rapidement, je vais payer des suppléments d'honoraires, idem si je veux une chambre tout seul. Je trouve qu'il est vraiment temps de mettre de l'ordre là-dedans. Qu'il faille faire des économies, c'est clair. Mais le citoyen, le patient, ce qu'il ressent surtout dans les épreuves de la vie, c'est que on a diminué le nombre de jours de séjour à la maternité. C'est deux. Et après, vous êtes mis dehors. On n'a pas l'impression qu'on a fait des progrès ailleurs. Donc l'organisation par silo, si elle permet d'économiser, de dégager des moyens, c'est bien. Mais cela se fait de manière non transparente et on n'a pas l'impression que l'argent économisé va là où il devrait aller, à savoir l'engagement d'infirmières et de bras.
Germain Mugemagango pour le PTB.
D'abord, évidemment, de dire que les personnes qui travaillent dans la santé font partie de ce qu'on appelle les secteurs essentiels. C'est fondamental. C'est fondamental d'avoir une structure de soins de santé qui soit justement suffisamment fournie et qui puisse répondre aux urgences sanitaires en Belgique. Et alors là, je comprends vraiment la colère de beaucoup de soignants et de soignantes où pendant la crise Covid, ils ont été encensés, hein, on les a applaudis pendant la crise Covid, et puis dès que la crise Covid est passée, on les a complètement oubliés, hein, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est pas évidemment surprenant que dans le secteur des soins de santé, c'est là qu'il y a le plus de burn-out, c'est là qu'il y a le plus de craquage professionnel, parce que c'est des métiers qui sont très durs, qui sont très lourds, qui sont en contradiction totale souvent avec la vie privée, et qui sont très peu payés, donc en tout cas pas assez. Et donc de ce point de vue-là, il y a vraiment urgence évidemment à pouvoir soutenir les soins de santé. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, donc il y a de plus, je crois que beaucoup de gens, hein, quand ils sont évidemment confrontés au fait de devoir être hospitalisés, ils ont peur. Ils ont peur parce que même si dans le personnel, il y a évidemment beaucoup de bonne volonté, donc c'est vraiment un métier à vocation. Donc on voit évidemment que les hommes et les femmes qui sont dans ce secteur font le maximum. Mais souvent, ce sont des gens qui sont complètement débordés, qui ont trop de lits, qui n'ont pas assez d'équipement, qui ne sont pas assez finalement soutenus. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment urgence. Ben, nous, notre volonté, c'est aussi de dire que pour nous, les soins de santé, ce n'est pas une marchandise. Donc, ça ne doit pas être un lieu de rentabilité. Ça ne doit pas être un lieu de bénéfice. Le droit à la santé, c'est un droit. Donc, quand les gens sont malades, ils ne font pas exprès. Okay ? Et donc, une cité qui se veut une cité civilisée doit pouvoir rencontrer ce besoin de manière fondamentale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, notamment, que nous, on se bat pour la revalorisation des soins de santé au niveau hospitalier. C'est pour ça qu'on s'est battu, notamment, pour le Fonds Blouse Blanche. Donc, Fonds Blouse Blanche, on peut dire que c'est une victoire du mouvement social. Hein, donc, c'est le mouvement social qui a mis ça sur la table. Donc, ils se sont mobilisés, infirmiers, infirmières, tout le secteur de santé s'est mobilisé et a obtenu ce Fonds Blouse Blanche. Le PTB a soutenu cette revendication, a relayé cette revendication pendant des mois, qui a été refusée par les autres partis. Et finalement, grâce au rapport de force, très important, grâce au rapport de force, ben, on a obtenu finalement gain de cause. Et ça a été évidemment un fonds très important de 400 millions qui a permis justement l'engagement de 5000 personnes dans les soins de santé. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est un élément très important, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Si on veut pouvoir fournir le personnel nécessaire aux soins de santé, ça, il suffit d'écouter ce que les syndicats nous disent et ce que le personnel nous dit, il faut 15 000 personnes en plus. 15 000 personnes en plus, c'est ça qu'il faut. Alors comment comprendre des gouvernements qui disent considérer avoir à cœur les soins de santé et qui pourtant organisent des examens qui empêchent finalement, des épreuves qui empêchent les jeunes qui veulent devenir dentistes, qui veulent devenir généralistes, de pouvoir le devenir. Donc pour nous, ça c'est incompréhensible, incompréhensible. Donc que quelqu'un, à un moment donné, quand il fait sa formation, il n'a pas réussi les examens, il n'a pas réussi finalement à être à la hauteur de sa formation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, donc ça, les épreuves sont là pour ça. Mais qu'en fait, à l'avance, on décide qu'il y a un numéro, plutôt qu'il y a un numéro dynamique qui ne soit pas accordé, ou qu'il y a un nombre de personnes qui soient limitées concernant justement les soins de santé, ou concernant le fait de pouvoir accéder à la carrière de dentiste ou de médecin, ça c'est incompréhensible. On voit qu'en Flandre, il y a dans une région sur quatre, il n'y a pas assez de médecins, et dans une région sur deux, en Wallonie, il n'y a pas assez de médecins. Donc, je veux dire, là, on a un véritable problème. Et donc, de ce point de vue-là, il faut justement supprimer tous les freins. Donc, moi, j'entends ce que dit la Fédération d'étudiants francophones, ils ont totalement raison. Il faut supprimer tous les freins au fait de pouvoir entamer des études qui permettent de devenir dentiste, généraliste, ou en tout cas, évidemment, de travailler dans le centre de santé. C'est le premier élément, évidemment, pour contrer la pénurie. Et l'autre élément qui est super important, évidemment, c'est la valorisation de ce métier. Donc il faut que les salaires soient évidemment élevés, plus élevés. Il faut que les conditions de travail soient différentes, parce que sinon, on ne pourra pas rencontrer évidemment le problème de pénurie qu'on rencontre. On voit maintenant, on a encore lu dans la presse il n'y a pas longtemps, que le nombre de personnes qui s'engagent simplement dans les études d'infirmiers, d'infirmières, il diminue drastiquement. Donc on a perdu des centaines de personnes en quelques années. Et donc de ce point de vue-là, il faut revaloriser ce métier. Le dernier élément, ce sont les soins de santé de première ligne. Donc, parce que là, j'ai parlé des hôpitaux, mais il faut aussi pouvoir considérer les personnes qui vont rentrer à la maison et qui voient que leur enfant, par exemple, a de la fièvre. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez le généraliste. Pour nous, c'est clair que les soins de santé de première ligne, ça doit être gratuit. Le PTB montre l'exemple depuis des années, puisqu'on a 11 maisons médicales qui existent depuis déjà 50 ans et qui sont plus de 25 000 personnes. Et c'est comme ça qu'il faut évidemment avancer. Il faut des maisons médicales, il y en a du PTB, il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui organisent cette médecine de première ligne de manière gratuite, qu'on appelle au forfait. Et donc ça veut dire que, en fait, finalement, quand vous allez chez le généraliste, vous ne sortez pas votre portefeuille pour pouvoir soigner votre enfant, pour pouvoir vous soigner vous-même. C'est très important, justement. Et on nous dit, ah oh, mais ça coûte de l'argent. Mais non, en fait, le bureau du plan l'a bien remarqué. Si cette première ligne, elle est gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de sollicitations des hôpitaux et moins de sollicitations des spécialistes. Donc au final, ça rapporte de l'argent. Et donc là aussi, c'est incompréhensible que les régions, parce que là, c'est les régions, on a la ministre boréale du PS qui est justement en charge de cette compétence-là, pourquoi ils n'organisent pas de manière systématique le fait d'avoir des maisons médicales en nombre pour pouvoir soigner suffisamment de gens? Notre projet à nous, c'est d'avoir suffisamment de maisons médicales pour soigner 2 millions de personnes, pour les mettre justement au forfait et de manière gratuite pour les soins de santé de première ligne. C'est vers ça qu'il faut aller, c'est vraiment important, parce que comme ça, évidemment, on pourra vraiment répondre aux défis sanitaires de demain.
Au sujet des réseaux.
Pour nous, l'essentiel, en tout cas, c'est que ces réseaux d'hôpitaux doivent être des réseaux de services publics. Parce qu'on sait bien, dans les hôpitaux, évidemment, il y a deux types de systèmes. Donc, il y a un système privé et un système public. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nous, en tout cas, il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'actionnaires, de dividendes dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est évidemment très important qu'elles soient au service de la société. Donc, le fait qu'on les réorganise en réseau, et donc, par exemple, il y a des réseaux qui s'organisent pour pouvoir justement faire des économies d'échelle, entre guillemets, en soi, ça peut être plus efficace, tant mieux. Mais ça ne doit pas mener à deux problèmes. Le premier problème, c'est que finalement, les hôpitaux soient gérés à la mode d'une entreprise privée. Donc pour nous, ça c'est hors de question. Donc c'est bien la logique publique qui doit prévaloir. Ça c'est vraiment important. Et l'autre élément, c'est que pour que des soins de santé soient efficaces, il faut qu'ils restent à proximité des gens. Et donc ça veut dire que des services justement qui sont essentiels doivent rester à proximité des gens. Parce que parfois quand je vois certains réseaux se dessiner, on a parfois l'impression que les gens vont devoir faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir avoir accès à ce genre de service. Et ça, on ne doit pas faire ça. Et donc ça veut dire que justement, un certain nombre de services de première ligne et parfois aussi de deuxième ligne doivent rester à proximité des personnes. Et donc pour ça, effectivement, il ne faut pas que cette concentration mène à un moindre service par rapport aux gens.
Raja Mawan, écolo.
D'abord, un mot sur l'accès et l'accessibilité aux soins de santé. C'est vraiment dramatique aujourd'hui que, par exemple, en Wallonie, près d'une personne sur deux, ou près d'un village plutôt sur deux, se retrouve en pénurie de médecins. Et donc, on doit vraiment réinvestir massivement aussi dans les soins de santé. On a vu les coupes, ce que ça a provoqué sur la collectivité pendant la période Covid. Et c'était dramatique, c'était vraiment dramatique. Et donc, pour nous, c'est vraiment essentiel de travailler sur l'accès aux soins de santé, que chacun et chacune ait à proximité et tout près de chez soi une doctoresse ou un docteur qu'il peut aller voir rapidement. Et surtout les coûts aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui, parce que le coût de la vie augmente et que le coût des soins de santé augmente, préfèrent faire des reports de soins et donc reporter le fait d'aller chez le dentiste, reporter le fait d'aller chez le médecin pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est dramatique pour nous et sur lequel on veut également travailler. Mais pour nous, et vous ne serez pas étonné que je fasse le lien, il y a un élément essentiel à faire, c'est un lien entre la santé et l'environnement, en fait. Quand on dit on veut un meilleur environnement, ce n'est pas pour l'environnement. L'environnement, je ne sais pas ce que c'est. On veut un meilleur environnement pour nous, pour les espèces vivantes, pour le bien-être des uns et des autres. Quand je parle d'un meilleur air pur, c'est pour la santé des uns et des autres. Quand on veut des espaces verts à proximité, c'est pour davantage de santé mentale et de santé tout court. Quand on veut lutter contre la pollution de l'air, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, à Saint-Josse, un enfant qui naît à Saint-Josse a plus de chances d'avoir des poumons sous-développés qu'un enfant qui naît ailleurs, parce que la pollution de l'air, elle est exécrable. Elle est extrêmement importante dans les quartiers les plus défavorisés. C'est aujourd'hui, je prends cet exemple, une des communes les plus pauvres du pays, c'est Saint-Josse. On vit en moyenne 5 à 8 ans de moins que dans une commune plus favorisée à cause des différentes pollutions. Donc pour moi, le lien entre santé et environnement, il est extrêmement important et on essaye de le mettre davantage en avant puisque préserver la planète, moi, je préserve pas la planète pour la planète. La planète, elle va très bien s'en sortir sans nous et sans moi. Si on veut préserver la planète, c'est pour préserver le vivant qui s'y trouve, et notamment les vies humaines.
Un autre élément concret ?
Oui, un élément, c'est bien sûr la revalorisation salariale. Aujourd'hui, il y a toute une série de métiers, dont les métiers du care, les métiers du cœur, comme on dit, qui ne sont pas suffisamment valorisés socialement et même financièrement. Et donc, on a toute une série de personnes qui prennent soin de nous, qui ne sont pas assez valorisées. Donc nous voulons une revalorisation salariale pour ces personnes-là. Ça passe notamment par une réforme fiscale qu'on a essayé de mettre en place et qu'un parti au sein de David Valdi a bloqué, le MR pour ne pas le citer. Ça permettait d'avoir jusqu'à 300 euros net en plus dans la poche des gens. Et donc une revalorisation salariale, ça peut aider justement à attirer davantage de profils, et ça permettra aussi de rémunérer de manière juste, équitable, des personnes qui prennent soin de nous et qui s'engagent pour la collectivité.
Maxime Prévost, Les Engagés.
Alors nous sommes et nous revendiquons d'être le parti de la santé, et du bien-être. On est très demandeur de maintenir une norme de croissance importante pour le financement des soins de santé. Le gouvernement Vivaldi a raboté de plusieurs centaines de millions les soins, alors même que tout le monde s'en était ému au moment de la crise Covid, qu'on saluait par les applaudissements les soignants, ben, tout ça, aussitôt chacun rentré chez soi, ça a été oublié, c'est pas du tout acceptable. Autre élément en matière de santé, nous sommes, nous les engagés, contre les numéros Inami, nous voulons les faire sauter, nous voulons aussi faire sauter tous les filtres en médecine et en vétérinaire pour accéder aux études. Ça n'a pas de sens d'empêcher les nôtres, qui sont pourtant motivés, de devenir médecins, et dans le même temps aller chercher en Roumanie des médecins pour venir dans nos hôpitaux. On marche sur la tête. Il nous faut en plus un grand nombre de médecins, parce que ce soit dans les campagnes ou même dans les milieux urbains, il y a une pénurie maintenant. C'est pas normal qu'il faille parfois attendre des mois et des mois pour un rendez-vous chez un ophtalmo. C'est pas normal que les médecins, parce qu'ils ont droit aussi à un autre rythme de vie, et parce qu'ils l'ont décidé, les nouvelles générations de médecins maintenant, ils font plus les bourreaux de travail jusqu'à 22 heures tous les jours, ils s'aspirent aussi à un rythme de vie correct, mieux équilibré entre la vie privée et la vie professionnelle, et donc ça veut dire qu'en quantité de médecins, il y a des demandes encore plus importante à devoir rencontrer, donc ces numéros Inami, c'est un non-sens absolu et nous souhaitons alors les flinguer.
Que pensez-vous des réseaux ?
Oui, la réforme hospitalière avec la création des réseaux est une approche positive, je pense qu'elle est inscrite dans les astres. On a au kilomètre carré probablement un pays avec la plus haute densité d'infrastructures hospitalières sur le territoire. Là aussi, hein, il y a un héritage entre les réseaux CATO, ceux qui ne le sont pas, l'officiel, etc. On doit être dans une démarche beaucoup plus collaborative, avec aussi comme prisme finalement les réalités territoriales. Ça veut dire travailler beaucoup plus en réseau, parce que simplement il n'y aura plus les moyens financiers suffisants du côté de l'État que pour financer tout, partout. On ne va pas pouvoir mettre toujours les instruments à la pointe qui coûtent souvent des millions d'euros dans chaque hôpital sur le territoire. Il faut évidemment des centres de référence, il faut des spécialisations, et puis faire un petit peu de tout, c'est pas bon, hein, quand vous avez un hôpital, je sais pas moi, au fin fond de telle province, où le chirurgien cardiaque ne fait que, je sais pas moi, 30 opérations par an, ça ne lui garantit pas d'avoir suffisamment la maîtrise, la main, l'expertise, que s'il en fait 30 par semaine. Et donc il y a à un moment donné des effets de seuil qui doivent aussi être atteints, et donc la réforme est bonne, elle est lente à mettre en œuvre. Il faut reconnaître qu'il y a aussi des réticences, parfois des corps médicaux eux-mêmes au changement, parfois des gestionnaires d'hôpitaux au changement, mais je pense que cette démarche du réseau hospitalier, elle va prendre corps de manière progressive au cours des années et décennies à venir.
Georges-Louis Boucher, MR.
Alors, les soins de santé, en fait, il y a quand même quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'on dépense énormément d'argent. D'ici 2026, ça sera 42 milliards d'euros, le budget total des soins de santé, alors que dans le même temps, on est un des pays en Europe avec le plus haut niveau d'invalidité-incapacité. On a un haut niveau de prescription d'antibiotiques, d'antidépresseurs, plus que la moyenne européenne. On a des délais d'attente qui, sur une moyenne européenne, ne sont pas si grands que ça, mais qui, pour les gens, sont quand même très contraignants au niveau des spécialistes. Et donc, aujourd'hui, on peut faire mieux avec ces dépenses-là. Que faut-il faire ? Un, il faut renforcer la prévention. Il y a un grand problème en Belgique, c'est que là, par contre, on dépense beaucoup moins que la moyenne européenne en matière de prévention. Or, si vous comparez entre les régions où on vit le plus vieux et les régions où on meurt le plus tôt, il peut y avoir jusqu'à 10 ans de différence. Pourquoi ? Parce que c'est des régions avec des niveaux économiques plus faibles, donc l'alimentation est moins bonne, on fait moins attention peut-être à une activité sportive, on a une qualité de l'air qui n'est pas toujours la même, donc agir sur la prévention à l'école est essentiel. Il faut renforcer les médecins de première ligne. Aujourd'hui à Bruxelles, près de 50% des Bruxelloises et des Bruxellois n'ont pas de médecin de famille. Or, c'est essentiel justement pour la prévention. Allez voir votre médecin une fois par an, même si vous n'avez rien, ça permet d'éviter de grands problèmes dans le futur et donc de grandes dépenses. Pourquoi ? Parce que le médecin va vous dire, il va un peu diagnostiquer au quotidien, il va dire là vous devez faire attention à ça, là il y a un risque de, il va pouvoir dépister beaucoup plus tôt s'il y a un problème. Et donc si vous dépistez plus tôt, ça coûte moins cher. Troisième élément. Il faut également faire en sorte que la gestion des urgences soit plus efficace pour qu'aux urgences ne se retrouvent que les vraies urgences. Aujourd'hui, on a un peu de tout en la matière et donc ça ne permet pas d'avoir non plus une médecine efficace. Il faut travailler sur ce qu'on appelle les sous-quotas de médecins pour faire en sorte qu'on puisse renforcer les disciplines en difficulté, et c'est surtout les médecins généralistes qui sont les plus manquants en la matière, avec des incitants et parfois quelques obligations, par exemple dans des zones rurales qui sont avec moins bien desservies en termes de médecins, eh bien de faire en sorte que des médecins stagiaires aient l'obligation, par exemple, de faire leur stage dans certaines zones à l'un ou l'autre moment pour combler des déserts médicaux.
Que pensez-vous des réseaux hospitaliers ?
Il faut créer des réseaux d'hôpitaux, il faut travailler en termes de bassins de soins. Pourquoi ? Moi, par exemple, je viens d'une ville où il y avait deux hôpitaux à une rue d'intervalle. Ils avaient tous les deux du matériel pour faire face aux crises cardiaques. Mais c'est un matériel qui coûte extrêmement cher et ça n'a quand même pas de sens de l'avoir à une rue d'intervalle de chaque côté, quoi. Et donc oui, l'avantage des réseaux et des bassins de soins, c'est qu'on va pouvoir optimiser, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans du matériel technologique si on veut une médecine de qualité. Et donc pour cela, il vaut mieux que les investissements se fassent par le même organe et qu'il n'y ait pas de concurrence en termes d'investissement. Au surplus, il faut aussi que via ces réseaux on puisse dégager des marges qui permettent de mieux soutenir le personnel infirmier. Je pense qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il en manque et donc ça rend les conditions de travail très compliquées. Il faudra aussi réfléchir peut-être au différentiel qui est très grand, trop grand à mon sens, de salaire entre le personnel infirmier et le personnel des médecins. Alors les médecins ont bien évidemment une expertise, une durée d'études qui est extrêmement longue, mais le personnel infirmier a un rôle majeur également dans le suivi médical des patients. Et donc je pense qu'aujourd'hui le système est peut-être trop centré autour du médecin en oubliant tous les autres agents de la santé qui ont aussi un rôle extrêmement important.
Vous l'avez compris, il y a une réelle volonté politique de renforcer la première ligne de soins et de supprimer les quotas ennemis.
Pour la majorité des partis, il faut également revaloriser le secteur en augmentant les salaires et les moyens investis. Pour la droite, il faut aussi rationaliser les dépenses afin d'être plus efficace.
Tout le monde est également favorable au système des réseaux, avec quelques nuances selon les sensibilités. On le sent, la question de la pénurie de main-d'œuvre sera au centre des débats lors de la prochaine législature.
Pour terminer aujourd'hui, la petite question bonus. On a posé à chacun une question simple. Vive le roi ou vive la République ? On vous laisse écouter les réponses et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour parler justice, police et prison.
Vive Charles le roi.
C'est une excellente question. En Belgique, vive le roi, sans aucune hésitation, parce que c'est le fruit de notre histoire et surtout c'est un ciment majeur de la Belgique. Dans l'absolu, je ne vais pas vous cacher que j'aime bien le modèle français. Les mauvaises langues diront que c'est parce que j'envisageais d'être président de la République, mais je ne vais pas le démentir.
Bah, plutôt vu la République, je ne crois pas que c'est un combat essentiel maintenant. Et dans le débat qu'on avait tout à l'heure sur l'unité du pays, je reconnais à la fonction royale le fait que c'est parfois un ciment, c'est parfois interpellant, mais c'est parfois un ciment pour l'unité du pays. Mais fondamentalement, nous sommes républicains.
Alors, ça étonnera certains, mais Écolo est un parti plus républicain, mais moi je suis une profonde royaliste et monarchiste, et donc vive le roi plus que jamais, et je le dis, j'ai hâte de fêter les 200 ans de la Belgique avec un roi ou une reine à sa tête, j'espère encore avec un roi, moi vive le roi à fond, à fond, à fond.
Vive le roi.
En Belgique, vive le roi, c'est le seul pays où ça marche vraiment.
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne louper aucun nouvel épisode et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute.
Help ! Pour qui voter ?